Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Après le 11 septembre, l'ombre des disparus.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est une chaussure à talons aiguilles rouges. La femme l'avait-elle enlevée en cherchant à fuir ? La portait-elle lorsqu'elle est morte ? Ou bien la chaussure avait-elle été expulsée d'un tiroir de bureau au moment de l'explosion ? On ne saura jamais. Mais ce rouge sur le fond uniformément gris de la scène m'a saisi.
On a dit que le seul moyen de savoir ce qui s'est passé dans la tête des victimes des tours jumelles, c'était sans doute de l'inventer. Mais il reste que l'inventaire du désastre requiert d'autres qualités que l'imagination. Les objets disséminés sur le lieu de la catastrophe ont été protégés le plus soigneusement possible. Les proches des morts leur accordent en effet une valeur inestimable. Mais surtout, ceux-ci souhaitent qu'on puisse leur restituer les restes des corps. On n'en a retrouvé que très peu qui soient entiers. Dans la décharge de Fresh Kills, 2 millions de tonnes de débris ont donc été transportées, dans lesquelles ont été retrouvés des milliers de fragments. Comment les identifier ensuite ? Les méthodes scientifiques sont plus avancées qu'elles ne l'étaient il y a un siècle, lorsqu'on tentait l'inventaire des champs de bataille de la Grande Guerre. Mais il a fallu souvent déclarer forfait, 40% des victimes sont restées non identifiées. En conséquence, la terre de Ground Zero est devenue sacrée, comme la terre de Verdun, sauf qu'elle a été déplacée par des bennes et des camions et remuée sans ménagement. Sur la décharge est prévu un parc, mais l'emplacement des deux tours ne pouvait lui rester un charnier. Depuis que New York est New York, ce quartier a toujours été un chantier. Il a été rendu donc au logement, au bureau, au commerce, au tourisme. 23 millions de touristes l'an passé, davantage cette année, d'autant que la chasse aux Pokémon augmente l'intérêt du lieu. Ground Zero, entre mémoire et résilience, est au centre d'un conflit d'usage.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Morin Picard, bonjour.
Bonjour.
Correspondant du Figaro et du Point à New York, vous avez publié dans les excellentes pages internationales du Figaro, je parle des pages internationales, un article des plus intéressants sur les victimes du 11 septembre. Alors, vous êtes depuis 5 ans que vous séjournez à New York, un as de la rencontre et de l'entretien. Parce que je vois 2 livres, Atelier Henri Dougier, 10 témoins racontent les métamorphoses des États-Unis. Et chez Perrin, les héros ordinaires, là c'est 11 témoins que vous avez rencontrés.
Oui, survivant d'une autre catastrophe mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et les conséquences chez les Américains d'une autre tragédie quasi terroriste, Pearl Harbor.
Je reviens sur un mot héros ordinaire. Les héros que vous avez interrogés, c'était des vétérans qui avaient quand même choisi de combattre pour leur pays, qui étaient conscients en tout cas des actes qu'ils posaient. C'est pas la même chose pour les victimes. Parce que ici, on imagine peut-être un jour de leur donner une médaille de reconnaissance, sauf qu'ils n'ont pas posé d'actes conscients.
Oui, mais il y a peut-être un rapport différent entre la France et les États-Unis avec l'héroïsation. On utilise le terme héros aux États-Unis peut-être plus facilement qu'en France, où on a peut-être plus de problèmes avec notre histoire contemporaine, celle du XXe siècle, où les héros d'un jour sont devenus les traîtres du lendemain, et vice-versa. Les Américains considèrent leur grande génération de la Seconde Guerre mondiale comme une génération de héros qui ont sauvé la civilisation face aux ténèbres. Et on peut évidemment se poser la même question pour les événements qui ont suivi les attentats du 11 septembre.
Mais une longue période de paix a suivi la Deuxième Guerre mondiale avant que ne se déclenche de nouveau un conflit insaisissable. Et les héros du 11 septembre, ce sont des gens qui mènent des métiers dans une société déshabituée de la guerre, qui les expose, mais en temps de paix. Alors les pompiers, par exemple.
Peut-être que les Américains considèrent le 11 septembre comme le premier acte d'une guerre qu'ils n'avaient pas souhaité, exactement comme Pearl Harbor 60 ans avant. Peut-être que ce qu'on appelle les first responders, les pompiers et les policiers qui sont intervenus sur les décombres fumants de Ground Zero ce jour-là, sont considérés comme des soldats par les Américains, les premiers qui se sont dressés finalement face au terrorisme, ce spectre qu'on arrivait difficilement à cerner. On ne savait pas ce jour-là qui avait fait le coup.
Beaucoup sont malades après avoir manipulé les substances toxiques des gratte-ciel effondrés.
Oui, il est difficile de ne pas faire la comparaison avec Tchernobyl.
Et ses liquidateurs.
15 ans plus tard, à Ground Zero, des pompiers, des policiers, des ambulanciers ont travaillé sans relâche dans les décombres fumants et sont morts de maladies parfois difficiles à cerner, infections pulmonaires, cancers. Il y avait beaucoup d'amiante dans les tours du World Trade Center. Et il a été très difficile pour ces gens et ces familles d'obtenir indemnisation de la part des autorités.
On viendra peut-être à la question de l'indemnisation dans un instant, mais dans un geste proche des images de la Deuxième Guerre mondiale, les pompiers de Brooklyn avaient, dès le soir du 11 septembre, hissé un drapeau.
Oui, la photo est aussi célèbre avec ce drapeau que les Marines de Iwo Jima, dressant le drapeau sur le mont Suribachi. On a tous en tête ces trois pompiers engoncés dans leur tenue ignifugée, brandissant un drapeau américain sur Ground Zero. Eh bien, ce drapeau a disparu dans les jours qui ont suivi et on l'a perdu pendant 14 ans jusqu'à ce que deux détectives le retrouvent dans l'état de Washington, à l'autre bout du pays. Et ce drapeau est aujourd'hui de retour dans le mémorial du 11 septembre à New York, 15 ans après les événements.
Et on l'a identifié avec des procédés scientifiques ?
Tout à fait, avec des procédés tout à fait perfectionnés. Il y a eu un grand doute au début, mais une émission de la chaîne historique, d'une chaîne historique, a permis de certifier que c'était bien le drapeau que les pompiers de Brooklyn avaient hissé pendant quelques heures.
Les procédés techniques ont beaucoup avancé depuis la Première Guerre mondiale. Les sons qu'on va entendre, on les a choisis à dessein dans un film de fiction concernant la Grande Guerre, histoire de mettre à distance le voyeurisme. On l'a bien choisi d'ailleurs parce que ce film, c'est...
Le film préféré de ma femme.
Ah, La vie et rien d'autre d'un vrai cinéaste historien, Bertrand Tavernier. Nous sommes en 1919, au moment où on identifie sur les champs de bataille les objets des morts.
C'est sûr, voyez-vous, que c'est le gobelet de mon gars. Il me l'avait écrit. Comme nous voilà tranquilles, je me suis essayé à graver une marguerite au cul de mon corps.
Quel régiment ?
Deuxième chasseur.
Deuxième chasseur. On en a plusieurs du deuxième maintenant. Le bègue. Le bègue, le bègue. Bègue. Pas de le bègue. J'ai un sans nom.
Sans nom ? Bon, ça pourrait bien être lui. Puis vous savez. Sa fiancée, enfin, la jeunesse qui fréquentait chez nous, elle s'appelait Marguerite. C'est probablement la raison de ce qu'il a dessiné là.
Bon, allez, marchons. Étiquette rouge, vous avez de la chance.
Ah bon ?
Les étiquettes rouges, c'est quand on a trouvé l'objet sur un reliquat.
Un reliquat ?
Un corps, tout ce qui en reste, quoi, un reliquat.
Vous n'allez pas nous le montrer ?
Ah, va bien falloir pour la reconnaissance. Mais n'ayez pas peur, ceux-là ont été pris dans l'argile. Pas bouger. Frais comme des bouteilles au fond d'une cave. Seulement, on les laisse dedans. Parce que dehors, avec l'air, le soleil, bougez pas. Lefèvre. Lefèvre. On salue pas. Tu emmènes ces gens-là à la visite, numéro 14.
14.
Oui. Mon Dieu. Je l'ai maigre.
C'est bien votre parent ?
Oui. Ben Dieu qu'il a changé avec cette barbe.
Les poils et les ongles, il paraît que ça continue de pousser après.
Oui, il paraît, oui.
Pourquoi il n'est pas dans son uniforme de soldat ?
Un vent sanitaire. Il devrait être couché, je crois que je vais tourner de...
Attention. Hop ! Là, tu tiens plus debout, là. Allez, là, boule, petit. Allez, allez, mon petit.
Vous racontez l'histoire, Morin Picard, de pompiers qui découvrent un corps, par hasard à peu près intact, du moins en apparence, c'est une statue amputée. En fait, il y a très peu de corps entiers, c'est une différence avec la Grande Guerre.
Oui, l'effondrement des deux tours a laissé des milliers de restes humains, ces reliquats dont on parle dans La vie et rien d'autre, qu'il a bien fallu évacuer avec les gravats qui ont été transportés à l'autre bout de la baie de New York, sur l'île de Staten Island, le cinquième bourg de la cité.
Et c'était une décharge qui allait fermer.
Une décharge à l'air libre qui allait fermer, qui a été recyclée à ses fins. Il a fallu y déplacer, vous le disiez, 2 millions de tonnes de gravats pour faire place nette dans le bas de Manhattan. Et parmi ces gravats, au fil des années, les experts sont retournés maintes fois essayer de récupérer ces minuscules résidus de restes humains.
Mais avant de parler des reliquats, les objets, comme ceux dont il est question dans le film de Tavernier, ils ont une grande importance pour les familles, les proches.
Pour les familles qui n'ont plus rien, un simple peigne, un bibelot, tous ces bibelots qu'on a tous sur notre bureau, à notre travail, des bouts de portefeuille carbonisés, constituent une importance fondamentale, puisqu'on ne peut se rattacher à rien d'autre, on ne peut pas faire de funérailles en bonne et due forme, mais on peut récupérer des objets personnels qui ont donc une valeur très importante.
Dans votre article du Figaro, vous citez la montre Rolex à 22 000 dollars de Jason Zesker.
Et oui, c'était un jeune cadre d'une entreprise financière qui était dans une des deux tours. Il venait de se faire offrir cette montre, il en était très fier. Et son père remue ciel et terre depuis lors pour retrouver cette montre, la seule chose qui lui permet de se rattacher à son fils.
Alors, pas de voyeurisme, avons-nous dit, mais venons-en quand même aux reliquats, aux restes humains. Les techniques ont beaucoup avancé depuis la Grande Guerre, et cependant, elles butent sur des difficultés.
Oui, fondamental depuis 2005, l'enquête pour l'identification des victimes est relativement au point mort. De tous ces restes humains que nous évoquons, à peine 300 victimes ont été identifiées. Il en reste 1100 encore aujourd'hui sur les 2753 de la catastrophe à Manhattan. 1100 qui n'ont pas été identifiés. Et c'est difficile à faire admettre aux familles, mais il est probable qu'on ne les identifiera jamais.
Même avec des progrès de la technologie ADN ? Ce qui pourrait faire dire aux familles, conservons au maximum les terres dans la situation où elles sont, parce qu'il y a peut-être un espoir pour demain. On continue à écouter un autre extrait du film de Tavernier. Quand il est difficile de reconnaître les corps, il y a une solution qui a été utilisée en France, c'est la désignation d'un soldat inconnu.
Soldat Auguste Thin. Soldat. Soldat. Voici un bouquet de fleurs cueillies sur le champ de bataille de Verdun, parmi les tombes des héros morts pour le pays. Vous déposerez ce bouquet sur l'un de ces 8 cercueils. Ce cercueil sera celui du soldat inconnu que le peuple de France accompagnera demain au Panthéon et à l'Arc de Triomphe. Suprême hommage. Le plus splendide que la France ait jamais réservé à l'un de ses enfants, mais qui n'est pas trop grand lorsqu'il s'agit de celui qui doit symboliser et immortaliser la vaillance du soldat vainqueur dont le sacrifice anonyme et l'héroïsme surhumain ont sauvegardé la patrie, le droit et la liberté.
La solution du soldat inconnu, dans le cas qui nous intéresse, Morin Picard, les victimes du 11 septembre, de la victime inconnue, c'est pas une solution universelle que tous les pays adoptent. Les États-Unis y ont pensé dans le cas du 11 septembre ?
Il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Un hommage vibrant est rendu chaque année à toutes ces victimes. Les Américains ont choisi une mise en scène, pourrait-on dire, sans aucune connotation péjorative, une mise en scène qui leur ressemble. Les deux cascades qui ont été construites à l'emplacement même des deux tours disparues, ces deux fantômes que les Américains, que les New-Yorkais ont en permanence à l'esprit lorsqu'ils traversent le pont de Brooklyn ou le pont de Manhattan, eh bien, elles sont un hommage interactif à toutes les victimes. On peut découvrir leur nom, on peut découvrir leur biographie, on peut s'émouvoir de certains de leurs actes héroïques, comme cette hôtesse de l'air qui a essayé de sauver la situation dans un des vols, ou alors un de ces pompiers qui a monté un escalier, qui a sauvé 70 personnes, mais qui a disparu dans la foulée.
Mais vous parlez d'hommages interactifs. Les noms sont gravés sur les parois des fontaines ?
Les noms sont gravés sur les parois des fontaines, c'est la première chose. Vous apercevez parfois des membres des familles se rendre devant ses fontaines et prendre une feuille de papier et un crayon de papier, pardon, une feuille et un crayon de papier et recopier le nom de leurs proches disparus. Certains, japonais ou indiens, déposaient une petite fleur dans l'incrustation sur le marbre. Et puis vous avez au mur des ordinateurs sur lesquels vous appuyez et les noms défilent, les photos de ces personnes défilent et vous découvrez leur vie. Et c'est une manière qu'ont les Américains, je trouve très émouvante, de faire revivre les victimes du 11 septembre.
Les cérémonies que vous évoquez sont accompagnées de minutes de silence. Dans son Histoire du silence, Alain Corbin raconte comment est née la minute de silence. Il dit que c'est au Portugal, dans une enceinte parlementaire au début du XXe siècle, et qu'elle s'est généralisée après la Première Guerre mondiale. À l'époque, les minutes de silence duraient de longues plages.
Fuselage du nano. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning, and the words that it was forming said the words of the prophets are written on the subway walls and the tenement. Whispered in the sound of silence.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Paul Simon évoque le silence. Morin Picard, nous parlons avec vous qui êtes correspondant du Figaro et du Point à New York de la manière dont l'hommage est rendu aux victimes du 11 septembre à New York. Six pauses silencieuses.
Oui.
Six.
Oui, six pauses silencieuses pour marquer l'écrasement de quatre avions sur la côte est des États-Unis ce jour-là. Et puis deux pour marquer l'effondrement des tours qui est survenu une heure après le premier impact.
Alors maintenant, parlons de ce qui se construit sur Ground Zero. C'est le mot qu'il faut toujours utiliser.
Eh bien non, les Américains s'efforcent de ne plus utiliser ce terme Ground Zero qui revêt une connotation macabre. Et puisqu'il a bien fallu rebâtir dans cette partie sud de Manhattan et qu'il a fallu faire revenir toutes les entreprises de la City, du quartier des affaires, eh bien ce terme a été jugé un petit peu malvenu. Il fallait remplir les étages des sept tours qui sont en construction, puisque ce n'est pas fini. Le remplissage se fait, bon an, mal an, ça n'a pas été évident. Et puis, avec les années, le terme de Ground Zero a disparu, même si évidemment les New-Yorkais au quotidien continuent d'utiliser cette expression. Mais pour des raisons commerciales, on évite de parler de Ground Zero. On parle du mémorial et on parle de la tour One World.
Mais il n'y a pas une tour qui s'appelle Freedom Tower ?
Voilà, la Freedom Tower a également disparu des usages. On utilise ce terme, ce nouveau terme, One World.
Alors je ne sais pas si la disparition de ce terme va faire plaisir à William Strobeck. C'est un cinéaste ici interrogé dans la série Villemonde de France Culture. En tout cas, il ne déteste pas le nom, il déteste plutôt l'usage qui est fait de cette tour et son aspect.
Elle s'élance fièrement à la pointe sud de Manhattan. Son antenne culmine à 541 mètres de haut. Son surnom, la Tour de la Liberté, 14 ans après l'attentat du 11 septembre, le nouveau World Trade Center ouvre ses portes au public.
I think that the big so-called Freedom Tower portion of it.
Je pense que cette grande tour qu'on appelle la Tour de la Liberté, Freedom Tower, cette partie-là du projet est effrayante. Elle est complètement fasciste. Vraiment. Ce bâtiment, il fout carrément la trouille. Mauvais choix, de tout point de vue.
Vous auriez préféré que l'endroit reste vide ?
Ça n'était même pas envisageable. Mais l'idée que l'empreinte de l'emplacement originel des tours reste me plaît.
competition where people are invited to submit designs.
Un concours a été organisé. Vous savez, on a demandé à des architectes de proposer des projets. Il y a eu une première sélection qui a ramené le nombre de candidats à 4 ou 5. Et puis un architecte a fini par remporter le concours. Et là, on a pris ses plans et lui, on l'a retiré du projet. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Alors franchement, à quoi bon toute cette mascarade pseudo-démocratique d'élaboration et de sélection d'un projet quand on savait pertinemment que les abrutis du développement immobilier allaient finalement tout décider ? Maintenant, on voit le résultat. Cette espèce d'obélisque mussolinien qu'ils sont en train d'ériger à la place des tours.
Bah oui, architecture fasciste peut-être, enfin vous allez peut-être en discuter, mais c'est une architecture fidèle aussi à l'histoire du quartier, qui, au moins depuis les années 1920, est un perpétuel chantier, un perpétuel renouvellement, à destination industrielle et commerciale.
Et oui, c'est un quartier en ébullition, comme le reste de Manhattan, et il fallait reconstruire. Il y a toujours la recherche de la verticalité à New York, on veut toujours aller plus loin, plus haut. Et c'est une ville dont on dit qu'elle ne s'arrête jamais, qu'elle ne dort jamais, et c'est ce qui s'est passé, malgré la catastrophe.
Qui investit dans les bureaux ? Vous parlez de Condé Nast ? Vogue.
Oui, cette énorme entreprise de médias a réoccupé la première et il était temps, parce que c'était difficile pour le promoteur Larry Silverstein de faire revenir toutes ces sociétés financières qui avaient perdu beaucoup de leurs employés dans la catastrophe et ça leur paraissait vraiment difficile de revenir au même endroit. Mais Condé Nast a changé la donne.
Et qui habite ? Vous dites qu'il y a un fort renouvellement, que ce sont des populations jeunes et puis peut-être plus nombreuses que celles qui existaient auparavant.
Oui, les yuppies des années 80 ont un peu laissé la place à un univers un peu plus familial. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles avant dans le bas de Manhattan. Maintenant, il y en a presque à tous les coins de rue. Les commerces ont fait leur apparition. C'était pas évident il y a 15 ans de trouver des petits commerces de quartier, des petits commerces dans le quartier du bas de Manhattan. Et puis, oui, il y a une frénésie immobilière qui a entraîné la construction de complexes résidentiels, notamment sur la façade, sur le fronton ouest. Aujourd'hui, on peut se promener, déambuler sur des pistes cyclables qui n'existaient pas auparavant. Lower Manhattan a réappris à vivre.
Mais comment les bâtiments nouveaux fonctionnent-ils avec le mémorial que vous évoquez ?
Oui, c'était un défi qui a été relevé de manière assez exceptionnelle par les architectes. On a construit, dernière en date, une grande gare qui relie Manhattan au New Jersey de l'autre côté. Elle est assez spectaculaire et ils ont réussi à insérer au milieu de ce nouvel ensemble immobilier de 7 tours à terme, ça n'est pas fini, eh bien, ces deux cascades magnifiques qui rappellent en permanence que 2 tours ont existé jadis.
Oui, mais il reste que les terres qui avaient été déblayées, elles avaient été déblayées vite pour permettre la réouverture de chantiers rapides. Eh ben, elles sont maintenant couvertes par ces nouveaux équipements que vous décrivez et que ça provoque des questions chez les proches des victimes.
Oui, il y a une énorme polémique qui continue d'ailleurs à ce jour. Pour les familles des victimes, ces reliquats dont nous parlions tout à l'heure, qui ont été évacués dans un premier temps à Staten Island, ont été rapatriés en 2014 lors d'une cérémonie assez émouvante. On les a rassemblés dans une grande urne funéraire et ils ont été insérés dans le béton, dans une salle de réflexion proche du musée du 11 septembre, ce musée souterrain. Et pour beaucoup de familles, selon leurs avocats, ça reste très dur à avaler puisque les autorités municipales ne l'ont pas demandé leur avis.
Alors voici le témoignage d'une femme qui appartient à l'association qui s'est constituée et qui a intenté d'ailleurs un procès à la ville de New York. On ne jette pas les restes des enfants dans une décharge et je demande, dit cette femme, justice et reconnaissance.
When an infant is dumped in a garbage dump and somebody finds an infant or a baby wrapped in a garbage bag, the whole city is outraged that somebody dumped a baby in a garbage dump. Well, my baby is in a garbage dump, and nobody cares. Nobody cares about the 3,000 people that were destroyed that day, blown to bits.
Mon bébé n'est pas un déchet, mon papa n'est pas un déchet, c'est un autre slogan qu'on a entendu de la part de cette association. Et alors, comment ça s'est passé, le procès ?
Eh bien, la ville de New York a obtenu gain de cause. Ces déchets humains sont toujours considérés comme des éléments à charge dans un dossier médico-légal. Ils peuvent toujours, dans le futur, être utilisés pour permettre des identifications additionnelles si la technologie, si la science le permet.
Mais quand à l'ancienne décharge, maintenant fermée, elle doit devenir un parc.
C'est l'objectif.
Mais les victimes, ou plutôt les associations de défense des parents des victimes, disent c'est un cimetière. Pourquoi cela devient-il un parc ?
Et pourquoi a-t-on laissé le cœur de Ground Zero devenir un musée souterrain avec des boutiques de souvenirs, alors qu'une urne funéraire contient les restes de ces 1113 personnes non identifiées ? C'est le combat permanent à New York entre une forme de mercantilisme et puis le devoir, la volonté, l'espoir de pouvoir se recueillir un jour.
Les boutiques de souvenirs, oui, au tout début, on a mis de la terre sacrée dans des bouteilles. Et ça, c'était les proches des victimes qui les emportaient. Qu'est-ce qu'on vend maintenant ?
On vend des choses a priori tout à fait respectables sur évidemment le souvenir, mais on vend des choses qui sont un petit peu plus difficiles, des porte-clés, des sweatshirts avec la silhouette des tours jumelles. C'est peut-être plus difficile à comprendre pour un Européen, pour un Français, puisque ces tours représentent un symbole, le symbole évidemment de la catastrophe, mais aussi d'une forme de résilience. Mais beaucoup d'Américains considèrent que jamais rien n'aurait dû être mis en vente sur ce qui aurait dû être un site de recueillement, un cimetière, à l'instar du cimetière national militaire de Arlington, à côté de Washington.
Des questions plus politiques maintenant, Morin, Picard, on parlait du procès à la ville de New York. Certains proches des victimes imaginent qu'un procès à l'Arabie Saoudite, peut-être, dont certains ressortissants ont pu jouer un rôle de proche ou lointain dans cette affaire, vaudrait le coup.
Oui, il a fallu près de 10 ans, et plus de 10 ans, pour obtenir la déclassification de 28 pages restées confidentielles de la commission d'enquête du Congrès sur les responsabilités directes et indirectes du gouvernement saoudien, et, étant donné que 15 des 19 terroristes ce jour-là portaient un passeport saoudien sur eux. Maintenant, cette déclassification a fini par avoir lieu, et sur ces bases, le Congrès républicain, la Chambre des représentants, a voté une loi la semaine dernière pour permettre aux familles des victimes de se porter devant un tribunal contre le gouvernement saoudien et obtenir des indemnités, des dommages et indemnités qui pourraient s'élever à des centaines de millions de dollars. Et évidemment, c'est très difficile à accepter pour l'allié stratégique des États-Unis qu'est l'Arabie saoudite.
J'en viens maintenant, délaissant le papier du Figaro, vous écrivez aussi dans Le Soir et non pas dans Le Point, comme je l'ai dit par erreur, Morin Picard, au livre que vous publiez à l'atelier Henri Dougier, une dizaine d'interviews de grands témoins des métamorphoses des États-Unis. Un conseiller de la CIA, John Rizzo, vous raconte, ça c'est tout à fait extraordinaire, que pendant que les avions tombaient et que partout des ordres d'évacuation fusaient, il regardait par la fenêtre et il disait c'est pas la peine, tout est encombré, je reste à mon bureau et je pense à ce qu'il faut faire demain. Et alors, il jette sur le papier 3 mots, capturer, détenir, interroger. Et après, qu'est-ce qu'il vous dit sur la manière dont on a interrogé après le 11 septembre ?
Eh bien, la grande question que pose John Rizzo et que se posent tous les Américains à ce moment-là, c'est que va-t-il se passer après ? Est-on au début d'une vague d'attentats terroristes ? Et ensuite, comment va-t-on faire justement pour arrêter les commanditaires, les identifier, les arrêter et les interroger ? John Rizzo, à ce moment-là, ne conçoit pas encore que des techniques d'interrogatoire renforcées vont être suggérées par des conseillers psychologues de la CIA, sur lesquels il va bien falloir apposer un blanc-seing, trouver une justification juridique à défaut de respecter un code éthique ou moral, ce qui va ramener l'Amérique en arrière de plusieurs décennies, l'utilisation de la torture qui avait déjà été dénoncée lors de la guerre du Vietnam. La France, évidemment, a connu le même problème avec la guerre d'Algérie. Et John Rizzo, contraint et forcé, va devoir trouver des justifications pour ces 10 techniques d'interrogatoire qui seront utilisées dans ces fameux sites noirs, ces black sites qui vont se développer aux 4 coins du monde, dans des endroits reculés, en Thaïlande, en Roumanie ou en Pologne, et où sont détenus les premiers dirigeants d'Al-Qaïda qui vont subir certaines de ces techniques, notamment l'utilisation, le waterboarding, c'est-à-dire la simulation de noyade. Et Rizzo a cherché pendant des années à se justifier, à justifier ces techniques.
Son témoignage dans ce livre, Les Métamorphoses des États-Unis, je rappelle que vous avez aussi publié chez Perrin des héros ordinaires sur les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Chez vous, Mathieu Picard, observation de la mouche drosophile.
Oui,
Vidard.
Oui, ben oui, bon.
Morin Picard, Mathieu
pas,
Vidard.
Ouais. Oh. Notre trait de personnalité, Jean, grâce au cerveau des mouches drosophiles, voilà le thème de la tête au carré.
Très bien, il est 14h, vous écoutez France Inter.